chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans la rubrique « Quelle histoire de point de vue ?», Joël Chevet nous entraîne dans un tourbillon d'histoires d'amour. Amour pluriel. Les enfants de l'amour sont nés bâtards, légitimés ou non par leurs parents, souverains, artistes, anonymes, parfois même évêques ou papes. La clandestinité de leurs origines aurait dû les léser. Liberté d'agir ou revanche sur la vie, tous s'en sont servis pour bâtir un destin à leur mesure. Maurice de Saxe, Mars en guerre, Hercule en amour. Les bâtards sont nombreux dans les cours au XVIIIe siècle, mais seuls les dévots s'en offusquent. Louis XIV n'a-t-il pas montré que les rois sont au-dessus des lois ordinaires? Le duc de Saxe, Frédéric Auguste, en est réellement convaincu. Des quelques 350 enfants naturels que lui prête la chronique, l'histoire n'a retenu que le plus phénoménal, Maurice, le futur maréchal. Maurice Hermann de Saxe est né le 28 octobre 1696 des amours de Frédéric Auguste, dit Le Fort, duc électeur de Saxe, roi de Pologne, et d'Aurore de Kenismark, une jeune femme belle et cultivée dont les ancêtres allemands ont fait fortune et conquis un titre comtal en mettant leurs armes au service de la Suède. Mais à la cour de Dresde, où les beautés sont légion, Aurore est très vite évincée. Elle n'est pas mariée, il lui faut donc assurer l'avenir de son fils en le faisant légitimer. C'est chose faite en 1711. Le comte Maurice de Saxe a 15 ans et derrière lui une enfance nomade entre Allemagne et Pays-Bas. Formé à la guerre par le comte de Schulenburg, il reçoit en 1712 son premier régiment et participe à sa première bataille à Gadebusch contre les Suédois. En 1714, sa famille lui offre aussi une riche épouse, Johanna Victoria de Leuben. Ce mariage est célébré au château de Moritzbourg, dont Aurore avait été la reine lors des fêtes de 1695. Mais une femme n'est pas un meuble propre à un soldat, dira plus tard Maurice. En théoricien de la guerre, il est opposé à tout attachement, pouvant dissuader ses hommes de se, tenez-vous bien, se faire tuer joyeusement. Et puis une épouse, cela vous empêche aussi de vivre gaiement. Et d'ailleurs, qu'a-t-il besoin d'un héritier puisque lui-même ne le sera jamais et restera un éternel sujet? Alors, il divorce et multiplie les aventures, mais aussi les désobéissances et les insolences. La Saxe est manifestement devenue trop petite pour lui. En 1720, il est envoyé en France, où le régent le reçoit avec égard, aux grandes dames de son ami et conseiller le duc de Saint-Simon. Le goût, l'exemple et la faveur de feu roi Louis XIV avaient fait de Paris l'égout des voluptés de toute l'Europe. Il faut pourtant avouer qu'un bâtard d'Angleterre, le duc de Berwick, et un autre de Saxe ont rendu de grands services à l'État en commandant glorieusement les armées. Maurice, en effet, n'a pas reçu en vain pour deuxième prénom celui d'Hermann, inspiré d'Arminius, le chef germain qui vainquit les légions romaines de Varus à la bataille de Teutoburg en l'an 9. La guerre de succession de Pologne et la guerre de succession d'Autriche font sonner son nom dans toute l'Europe. Nouveau Turenne, Mars, Hercule et Achille à la fois, vainqueurs de Fontenoy en 1743, puis de Rocou, Laufield, Maastricht, Bruxelles. Louis XV le fait maréchal général de ses armées et lui offre le château de Chambord. Thank you. En 1746, le roi Louis XV lui confie même la négociation du second mariage du dauphin avec Marie-Joseph de Saxe. Elle est la fille d'Auguste III de Saxe, roi de Pologne et demi-frère de Maurice, qui entre ainsi dans la famille royale française. Mais par la petite porte, car c'est au duc de Richelieu que revient l'honneur de conduire à Dresde l'ambassade extraordinaire chargée de demander la main de la princesse. Blessure d'amour-propre. Mais le coup de grâce sera bientôt porté par ce même Louis XV, qui pourtant aime et admire Maurice, quand il lui fait le cadeau le plus terrible pour un homme dont la seule passion était la guerre. La paix. Et quelle paix! Une paix de roi et non de marchand, se réjouit Louis XV, quand tout le royaume ricane qu'il n'y a pas plus bête que cette paix-là. Par les traités d'Aix-la-Chapelle en 1748, la France abandonne les Pays-Bas conquis par le comte de Saxe. Le temps est venu de se retirer à Chambord, dont il a fait une éblouissante demeure et où il jouit de privilèges honorifiques et militaires dignes d'un souverain, pour ne citer que son extraordinaire régiment de Saxe-Infanterie, dont les soldats noirs sont la principale attraction. Mars en guerre, Hercule en amour. Lorsqu'il contemple son passé, que de gloires inouïes pour le soldat invaincu et pour l'auteur de « Mes rêveries », traité sublime sur l'art de la guerre qu'il a rédigé en 1732 et qui inspirera tant de grands généraux du XIXe siècle. Pas de quoi cependant se donner le ridicule d'entrer à l'Académie française. Le maréchal sait très bien ce que vaut son orthographe. Mais aussi, que d'occasions manquées. Sa naissance lui interdit les bassesses d'un courtisan, comme les ambitions d'un roi, dont il se sent pourtant l'étoffe. En 1725, il a été élu duc de Courlande, avec l'appui de la duchesse douairière Anna Ivanovna, fille du tsar Ivan V. Mais son propre père, comme la diète polonaise, ont refusé de le reconnaître. Plus tard, Anna Ivanovna, devenue tsarine de Russie, l'aurait peut-être épousée s'il ne l'avait trompée. À Chambord, en 1748, il rêve encore de régner sur Madagascar est d'y installer des colons allemands. Louis XV est d'accord, mais le projet est trop coûteux. Alors, pourquoi pas Tobago, qu'il se fait fort de transformer en petite colonie militaire modèle au cœur des Antilles. Louis XV est toujours d'accord, mais pas l'Angleterre, ni les Provinces-Unies. Les femmes qui n'ont jamais été cruelles à ce superbe nordique, cheveux d'argent et yeux de saphir, aux allures de calife drapé dans une peau de léopard, ainsi qu'en témoignent les pastels vibrants de son ami Maurice Quentin de la Tour. Il les chavire toutes avec son air martial et débonnaire et sa force phénoménale. Comme son père, Maurice adore faire des numéros de pliage de fer à cheval à main nue. Et toutes lui sont agréables, des prostituées aux aristocrates, avec une prédilection pour les comédiennes et autres filles d'opéra. Adrienne Lecouvreur, la célèbre actrice de la Comédie française, lui a ouvert ses bras et sa bourse aussi, pour financer son aventure en Courlande. À son retour, il la trompe, sans vergogne, avec la duchesse de Bouillon, avec Marie Rintot, dite Mademoiselle de Verrières, théâtreuse de 17 ans qu'il abandonne parce qu'elle le trompe avec le poète Marmontel. Il conçoit une fille, Marie-Aurore, le seul enfant qu'on lui connaisse. Amertume et désillusion ont fait de lui un guerrier d'alcôve. Le 20 novembre 1750, c'est la fin brutale, un coup de froid, ou peut-être un coup d'épée de son rival en quête de trône, le prince de Conti. Luthérien, Maurice de Saxe est enterré dans le temple de Saint-Thomas à Strasbourg, où Louis XV fait édifier un mausolée monumental par le sculpteur Pigalle. Maurice de Saxe a-t-il eu ses derniers mots ? La vie n'est qu'un songe. Le mien aura été court, mais beau. En tout cas, Marie-Aurore, à laquelle il n'a pas laissé un sou de son immense fortune, prolongera le rêve de légitimité en se faisant reconnaître comme sa fille par un arrêt du Parlement de Paris en 1766. Plus tard, elle épousera le financier Louis Dupin de Franqueuil, dont elle aura un fils, Maurice, père d'une nouvelle Aurore, dite George Sand, la messagère d'un nouveau rêve. « Mon sang royal s'était perdu dans mes veines en s'alliant dans le sang plébéien de ma mère, disait-elle. J'avais toujours eu de la répugnance, d'abord par instinct, ensuite par raisonnement, à m'incorporer dans une caste qui n'existait que par la négation de l'égalité. » De George Sand à Chopin, il n'y a que des notes. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles pour une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.